Je suis dans le chapitre 3 du Lévitique et il est question de tout le rituel qui entoure les sacrifices d'animaux. Je continue le texte. « Celui qui offre ce sacrifice de communion posera sa main sur la tête de la victime avant de l'égorger devant la tente de la rencontre, et les descendants d'Aaron en aspergeront le sang tous les côtés de l'autel. On prélèvera de ce sacrifice de communion pour l'offrir à l'Éternel en le consumant par le feu, les parties grasses, la queue entière coupée près de l'échine, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les doronions et la graisse qui les enveloppe et qui couvre les flancs, ainsi que le lobe du foie qu'on ôtera avec les rognons. » Versets 8 à 10. C'est donc toujours le même rituel que précédemment. Toutes les parties grasses reviennent de droit à l'Éternel. Bien que ce soit toujours un sacrifice de communion, d'action de grâce, il comprend toujours un aspect expiation à cause des fautes continuelles que commet tout homme, dont bien sûr celui qui offre l'animal. Avant de pouvoir établir une relation amicale avec Dieu, il est indispensable de régler le problème de la culpabilité morale de l'adorateur. Dans cette série de sacrifices que j'ai appelée d'action de grâce, les deux formes de paix sont visées. D'une part, la réconciliation de la créature avec son créateur, et d'autre part, la communion. Ces deux aspects sont dans l'invitation que fit Jésus aux foules à un moment donné de son ministère. Je la cite. « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Fin de citation. Il s'agit de ce repos qui est la paix avec Dieu retrouvée. Je poursuis avec la seconde partie de l'invitation du Christ. « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Fin de citation. Ce repos-ci est celui de la communion avec Dieu. C'est comme si deux personnes étaient ennemies. D'abord, elles vident l'abcès du problème qui les sépare, et ensuite, elles peuvent devenir amies. Je continue le texte. Le prêtre les fera brûler sur l'autel. C'est un aliment consumé par le feu pour l'Éternel. Verset 11. Dans le paganisme, comme cela est décrit dans la fameuse inscription assyrienne de Esar-Adon, ceux qui offraient des sacrifices invitaient leur Dieu à participer à leur festin. Dans la relation entre le peuple d'Israël et l'Éternel, c'est tout le contraire. C'est Dieu qui invite, comme cela est clairement expliqué dans un autre livre de Moïse que je cite. « L'Éternel, votre Dieu, choisira un lieu au milieu des territoires de toutes vos tribus pour y établir sa présence et pour en faire sa demeure. C'est là seulement que vous irez l'invoquer. Là, vous apporterez vos holocaustes et vos sacrifices, vos dons spontanés et les premiers-nés de votre gros et de votre petit bétail. Là aussi, vous prendrez vos repas cultuels en présence de l'Éternel votre Dieu et vous vous réjouirez, vous et vos familles, de tous les produits de votre travail par lesquels l'Éternel votre Dieu vous aura béni. » Fin de citation. C'est l'Éternel l'hôte et qui offre le repas de fête, tandis que l'Israélite était invité. Dieu n'est le débiteur de personne, c'est lui qui pourvoit à la table dans l'offrande d'action de grâce. C'est Dieu qui est à la fois la source du salut et de la communion avec lui. L'homme n'a rien à offrir à Dieu, il ne peut qu'être demandeur. Le paganisme sous toutes ses formes se définit par l'homme qui invite Dieu à participer à quelque chose. Dans les textes sacrés, c'est toujours l'Éternel qui invite et qui agit en faveur de sa créature. Je continue le texte. Si c'est une chèvre qu'on offre, on l'apportera devant l'Éternel, on posera la main sur la tête de l'animal avant de l'égorger devant la tente de la rencontre, et les descendants d'Aaron en aspergeront le sang tous les côtés de l'autel. Versets 12 à 13. La chèvre fait elle aussi partie du menu bétail. Le rituel est toujours le même. Dans le livre de l'Exode, une des tentures du tabernacle était faite de peau de chèvre. parce que celle-ci est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et surtout utilitaire. Elle représente le Christ dans son humanité, rejeté par son peuple parce qu'il ne correspondait pas à un souverain glorieux. Je lis une prophétie que j'ai déjà citée dans l'étude du livre de l'Exode et qui exprime bien cette idée. « Car devant l'Éternel, il a grandi comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance, ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. » Fin de citation. Je continue le texte du Lévitique. « On offrira à l'Éternel, en les consumant par le feu, la graisse qui recouvre les entrailles et toute celle qui y est attachée, les deux rognons et la graisse qui les enveloppe et qui couvre les flancs, ainsi que le lobe du foie qu'on ôtera avec les rognons. Le prêtre fera brûler ces morceaux sur l'autel. C'est un aliment consumé par le feu dont l'odeur apaise l'Éternel. Toute graisse revient à l'Éternel. » Versets 14 à 16. Rien de bien nouveau, c'est toujours le même rituel. Par contre, l'emphase est placée sur la phrase « Toute graisse revient à l'Éternel ». Cette interdiction est franche et massive. Pour l'Éternel, la graisse est le meilleur parce qu'elle provient de l'intérieur de l'animal. Cette exclusivité que Dieu proclame est un appel à la consécration de l'Israélite à son Dieu qui désire de l'homme, juif ou autre, qu'il se soumette et s'humilie devant lui. Peut-être est-ce difficile à entendre, mais l'Éternel n'est pas un papa gâteau qui se promène sur un nuage rose. C'est un Dieu qui se dit lui-même jaloux. Il ne tolère pas que ses créatures s'intéressent à d'autres dieux que lui ou consacrent leur vie à des idoles de néant, comme l'argent, les plaisirs, le statut, le sport et que sais-je encore. Je finis le chapitre 3 du Lévitique. « C'est une ordonnance immuable que vous respecterez de génération en génération, partout où vous habiterez. Vous ne consommerez aucune graisse ni aucun sang. » Verset 17. Un peu plus loin dans le Lévitique, l'Éternel donne davantage de précision, ou plutôt de mise en garde. Je les lis. Dit aux Israélites, « Vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, de mouton ni de chèvre. En effet, celui qui mange de la graisse des animaux qu'on offre à l'Éternel, en la consumant par le feu, sera retranché de son peuple. Nulle part où vous habiterez, vous ne consommerez aucun sang, que ce soit celui d'un oiseau ou d'un quadrupède. Si une personne consomme du sang, quel qu'il soit, elle sera retranchée de son peuple. » Fin de citation. Être retranché de son peuple signifie évidemment la peine capitale. Le sang avait une valeur expiatoire de fond. Il servait uniquement à couvrir les fautes. La graisse appartenait à l'Éternel. C'était, pour ainsi parler, sa nourriture de choix. Elle a aussi une certaine valeur expiatoire, mais de surface. La graisse signifie surtout la consécration de l'adorateur à Dieu. En cela, elle représente la personne du Christ dans sa soumission absolue à Dieu son Père tout au long de sa vie terrestre et ce, jusque dans sa mort sur la croix. Voici terminée une description brève des sacrifices primitifs. Si l'Holocauste permettait de s'approcher de Dieu, le sacrifice d'action de grâce donnait ensuite l'occasion d'un moment de communion en sa présence. Jésus-Christ s'est offert comme le sacrifice qui permet à quiconque de faire la paix avec son Créateur. Une fois cette paix fondamentale établie, Dieu désire poursuivre une relation amicale avec tous ceux qui ont reconnu en Christ leur Sauveur. Tout comme l'Israélite devait respecter des conditions de pureté rituelle pour avoir part au sacrifice d'action de grâce, c'est la même chose pour ceux qui aujourd'hui veulent établir une relation avec Dieu. Nous voici arrivés au chapitre 4 du Lévitique. Il va y être question d'un nouveau type de sacrifice, celui de l'expiation, et qui vise spécifiquement à couvrir une faute commise contre l'Éternel. C'est à cause de la nature fondamentalement rebelle de l'homme que le Christ a dû souffrir et être exécuté par les Romains sur décision des autorités juives. Donc, ce sacrifice d'expiation préfigure le Christ en croix. C'est aussi celui qui est le plus longuement décrit de tous parce qu'il est impératif pour l'Israélite comme pour le commun des mortels de bien comprendre combien ce sacrifice est fondamental aux yeux de l'Éternel. À partir du moment où la loi de Moïse fut donnée au peuple d'Israël, le sacrifice d'expiation est devenu le plus important de tous, car un des objectifs du code mosaïque est justement de révéler à l'homme sa culpabilité intrinsèque devant l'Éternel. Cette offrande était faite durant toutes les fêtes, la Pâque, la Pentecôte, la célébration des trompettes et des tabernacles et pour le jour des expiations qui s'appelle le Yom Kippour. L'Holocauste symbolise le sacrifice du Christ en ce que par son existence terrestre, parfaite et totalement dévouée, consacrée, par son obéissance jusqu'à la mort sur la croix et par l'offrande de sa vie, il a pleinement satisfait toutes les exigences de la justice du Dieu trois fois saint. Le sacrifice d'expiation préfigure la mort du Christ qui, sur la croix, va obtenir l'effacement complet de la dette du coupable envers Dieu dans la mesure où il a la foi, bien sûr. Alors que l'Holocauste, à titre individuel, était une offrande volontaire, le sacrifice d'expiation est obligatoire lorsque certaines règles ont été enfreintes. Et de plus, contrairement au précédent, il n'est pas dit apaisant pour l'Éternel. Je commence à lire ce chapitre. L'Éternel s'adressa à Moïse en ces termes, parle aux Israélites et dit-leur, « Lorsque quelqu'un aura péché involontairement en commettant l'une quelconque des choses qui sont interdites par les commandements de l'Éternel, voici comment on procédera. » Versets 1 et 2. Ici nous est donnée l'indication générale de la nature des transgressions en vue et pour lesquelles est institué ce nouveau sacrifice. Dans l'Ancien Testament, les fautes pouvaient être d'ordre rituel ou moral. Ce sacrifice d'expiation ne couvre que les fautes involontaires. Ce sont celles commises par erreur contre l'un des commandements ou par inadvertance ou laissées aller sans préméditation ni mauvais vouloir. Ce sont des actes manqués ou qui vous échappent, où l'on tombe par faiblesse, oubli, surprise ou ignorance. Le grand apôtre Paul dans le Nouveau Testament était auparavant un persécuteur et un blasphémateur contre le Christ. Mais il a obtenu miséricorde parce qu'il agissait par stupidité, par ignorance. Je lis ce qu'il a lui-même écrit. « Je suis reconnaissant envers Jésus-Christ, notre Seigneur. En effet, il m'a accordé sa confiance en me choisissant pour ce service, moi qui, autrefois, l'ai offensé, persécuté et insulté. Mais il a eu pitié de moi car j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. » Fin de citation. Ces actions ou omissions coupables révèle le fait que le mal habite le cœur de l'homme dès sa naissance. Ce que confirme le psalmiste de l'Ancien Testament qui écrit « Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis qu'en ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. » Fin de citation. Faire ce qui est contraire au caractère de Dieu est dans la nature même de tout être humain. Je commets des actions qui déplaisent au Dieu saint parce que, en moi-même, je n'ai pas cette capacité de satisfaire ses exigences. Donc, le sacrifice d'expiation adresse les fautes commises sans préméditation. Celles-ci sont tout à fait opposées aux actes de rébellion commis à main levée, c'est-à-dire de façon délibérée, avec une intention de révolte contre l'Éternel. Ces actes intentionnels entraînaient inévitablement la peine capitale. Voici ce qu'en dit un passage du Nouveau Testament que je cite. « Celui qui désobéit à la loi de Moïse est mis à mort sans pitié si deux ou trois témoins déposent contre lui. » Fin de citation. Soit dit en passant que le même principe est en vigueur aujourd'hui, au 21e siècle, pour ceux qui rejettent délibérément Jésus-Christ après avoir compris la signification de sa mort sur la croix. Je lis la confirmation qu'en donne un passage du Nouveau Testament. « En effet, si, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consumera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. » Fin de citation. Le sacrifice d'expiation est offert par l'Israélite qui, suite à la transgression d'une norme, a distinctement conscience non seulement d'avoir mal agi, mais d'avoir enfreint le code de bonne conduite établi par l'Éternel. Il se sent positivement responsable d'avoir désobéi un ou plusieurs commandements de la loi. Voici comment le psalmiste réagit face à ce sentiment de culpabilité. Je le cite. « Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute, car je reconnais mes torts. La pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Et tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. » Fin de citation. En confessant qu'il s'est spécifiquement mal conduit, l'Israélite transformait ce vague malaise d'avoir mal agi en quelque chose de plus concret, de quantifiable, et qui pouvait se régler par le biais d'un sacrifice que Dieu acceptait. L'institution du sacrifice d'expiation avait aussi un objectif pédagogique. Il enseignait aux Israélites à respecter et ne pas offenser l'Éternel, leur Dieu, qui est saint. Les divers rites qui lui étaient propres concouraient au même but, rendre l'homme conscient de sa culpabilité vis-à-vis de Dieu, afin qu'il assume toute la responsabilité de ses actes, ce qu'il ressentait fortement lorsqu'il confessait la faute commise, tout en imposant les mains sur la tête de l'animal qui allait être exécuté à sa place. Voilà comment le psalmiste demande à Dieu d'être conscient de ses transgressions. Je lis. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Fin de citation. Une fois la faute reconnue et confessée comme telle, le coupable obtient le pardon de Dieu. Voici un exemple tiré de la vie du roi David. Je le lis. « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Fin de citation. C'est ce qu'on pourrait appeler se mettre sur le divan de l'Éternel, au lieu d'aller voir un psychanalyste. Le problème du petit criminel, comme de l'homme d'affaires véreux, ou de celui qui se prend pour un ténor au-dessus du panier, n'est pas que sa mère ne lui a pas donné tout l'amour et l'attention dont il avait besoin quand il était petit, mais bien plutôt qu'il est méchant et que son cœur est tortueux et mauvais par nature. D'ailleurs, c'est exactement le verdict divin exprimé par un des plus grands prophètes de l'Ancien Testament que je cite. « Le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose et il est incurable. Qui pourrait le connaître ?» Fin de citation. Je continue le chapitre 4 du Lévitique. Si c'est un prêtre qui a reçu l'onction qui a péché et qui par là même a chargé le peuple de culpabilité, Il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il aura commis un jeune taureau sans défaut en sacrifice pour le péché. Il amènera le taureau à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel. Il posera la main sur la tête du taureau et l'égorgera devant l'Éternel. Versets 3 à 4. La faute du grand prêtre est considérée en premier lieu à cause de sa position de chef du culte. Il est le seul qui avait reçu l'onction, ce qui faisait de lui le souverain sacrificateur. La gravité de la transgression est proportionnelle à la position et aux responsabilités de celui qui se rend coupable. Le grand prêtre était le guide de la nation dans le culte à rendre à l'Éternel. S'il tombait, tout le peuple le suivait dans la même faute. Sa culpabilité était donc plus grande que celle de l'Israélite moyen à cause de son rang. Si c'est le lampiste qui chute, il n'affecte que lui. Plus la personne occupe une position hiérarchique élevée, plus la valeur de la victime qui doit être offerte en compensation, en expiation, est importante. Dans le cas du grand prêtre, ce devait être un taureau, le sacrifice le plus coûteux, de la même valeur que celui qui doit expier la transgression de tout le peuple quand celui-ci s'est rendu coupable d'une faute collective. Le grand prêtre était un être humain, comme vous et moi, et donc sujet aux mêmes faiblesses. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.